Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonjour à toutes et à tous. Les Tunisiens s'apprêtent à enterrer leur président aujourd'hui lors de funérailles nationales pour Béji Caïd Essebsi. Mort à 92 ans, à quelques mois de la fin de son mandat, le président tunisien entretenait avec la France des relations de proximité particulières. Emmanuel Macron fait le déplacement pour les obsèques de celui qu'il a qualifié d'ami de la France dans ce pays qui demeure un partenaire stratégique privilégié. À Tunis, Michel Picard.
La France, premier partenaire commercial de la Tunisie, compte le plus grand nombre d'entreprises étrangères dans le pays et reste le premier bailleur d'aide publique au développement et d'assistance technique. L'an dernier, lors de la visite d'Emmanuel Macron à Tunis, le président Essebsi s'était déclaré satisfait de cette relation tout en estimant que Paris pouvait faire davantage. À l'heure des funérailles de celui qui fut ambassadeur à Paris dans les années 70, la présence d'Emmanuel Macron vient également rappeler l'importance stratégique de ce petit pays du Maghreb. En pointe dans la lutte contre le terrorisme, la Tunisie bénéficie de coopérations militaires avancées avec la France et les États-Unis afin de préserver cette rare terre de stabilité dans la région. Dans le dossier migratoire, Paris prône le développement de la Tunisie afin de ralentir les tentatives de traversée méditerranéenne et à quelques semaines de la présidentielle et des législatives, Emmanuel Macron entend garder le leadership d'une relation privilégiée par le biais de liens étroits avec les acteurs politiques tunisiens de demain afin d'encourager la transition démocratique.
Et l'élection présidentielle initialement prévue le 17 novembre devrait se tenir le 15 septembre. Les Colombiens sont descendus par milliers dans la rue hier soir pour protester contre la vague d'assassinats ciblés qui vise les activistes et les anciens guérilleros, aujourd'hui démobilisés. Plus de 700 personnes ont été tuées dans les régions rurales depuis la signature de l'accord de paix avec les FARC en 2016. Des manifestations ont eu lieu dans toutes les villes du pays. À Bogota, Marie-Ève de Teuf.
Les Colombiens pro-paix sont descendus dans la rue. À Bogota, comme partout dans le pays, les manifestants brandissaient à bout de bras des portraits des leaders paysans et autres activistes assassinés. Ici, on parle de leaders sociaux. Une manifestante explique.
Je suis là comme tout le monde parce que nous ne voulons pas qu'il y ait encore des leaders assassinés. Nous voulons la paix et nous ne voulons pas que le gouvernement continue à nier les assassinats.
À en croire le gouvernement et la droite dure, les narcotrafiquants et le crime organisé seraient les seuls coupables de la violence. Le président Iván Duque a toutefois au dernier moment décidé de soutenir la manifestation, un geste qui n'a pas convaincu tout le monde. Enrique.
Il dit qu'il fait tout pour la paix, tout pour protéger les leaders sociaux et les paysans qui réclament leurs terres. Mais nous sommes beaucoup à ne pas croire parce que nous savons que les faits le contredisent.
Yann Bassé, professeur de sciences politiques, considère lui que c'est une bonne chose que le président Duque se démarque de son parti et appuie la manifestation.
Je pense que c'est bien qu'il le fasse parce que dans son camp, il y en a beaucoup qui ne sont pas convaincus de l'importance du problème. Donc je crois que c'est un symbole important. Évidemment, c'est un petit peu ambigu.
La manifestation de vendredi pourrait marquer un tournant. Yann Bassé.
C'est depuis l'accord de paix une manifestation très importante dans tout le pays qui marque une prise de conscience vis-à-vis de ce problème des leaders sociaux qui sont assassinés dans les régions.
Reste à voir si la prise de conscience se traduit en action.
Marie-Ève de Teuf, et on l'a appris ce matin, deux personnes ont été exécutées au Bahreïn pour terrorisme, et ce en dépit des protestations des défenseurs des droits humains. Ils dénonçaient les irrégularités lors des procès. 42 degrés à Paris, 41 à Lille cette semaine, 45 degrés dans le Gard fin juin. Les épisodes de canicule vont se multiplier et perdurer dans les prochaines années. Un dérèglement climatique qui transforme nos villes en véritables fournaises, car elles ne sont bien souvent pas adaptées à ces fortes chaleurs. Comment dès lors adapter les plans d'urbanisme et d'architecture? Lisa Guyenne a posé la question à un architecte spécialiste des aménagements durables.
Comment rendre nos villes supportables lorsque l'on dépasse les 40 degrés? L'architecte Philippe Ram s'intéresse de près à la question du climat et du développement durable. Selon lui, il faut d'abord penser à blanchir nos bâtiments pour renvoyer la chaleur.
C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez les villes en Grèce ou les toitures par exemple à Pantelleria dans le sud de l'Italie, sur les îles ou même au Yémen, souvent les toits sont blancs en fait. C'est blanc parce que si c'est blanc, toutes les longueurs d'onde sont reflétées par le matériau et donc en fait quand les surfaces horizontales sont blanches, en fait ça reflète les rayons du soleil qui rebondissent dessus et repartent dans l'univers. Donc ça ne réchauffe pas en fait.
Il y a 2 ans, la ville de Los Angeles a perdu 6 à 7 degrés au sol en repeignant ses rues en blanc. Autre solution contre la chaleur, construire des fontaines et des points d'eau, créer également des courants d'air entre les bâtiments pour faire circuler le vent et puis surtout travailler l'isolation des habitations, en particulier des passoires thermiques.
Aujourd'hui, les 40 degrés qu'on a à Paris, ils traversent les murs très facilement en fait. Ils chauffent tous les intérieurs, quoi. Alors que si on était bien isolé, ça chaufferait beaucoup moins. Si on avait des triples vitrages, si on avait 25 cm d'isolation thermique, on aurait beaucoup plus frais dans les maisons qu'aujourd'hui, quoi.
Une fraîcheur qui éviterait aussi de recourir à outrance aux climatiseurs qui, on le rappelle, rejettent de l'air chaud à l'extérieur et contribuent ainsi au réchauffement général des villes.
Lisa Guyenne. Et ça a failli être la bonne nouvelle de l'été, le retour de l'émission culte Striptease annoncée par la chaîne RMC Story. Le premier numéro sera diffusé ce soir. Oui, mais voilà, en réalité, ce Striptease QV 2019 n'est en fait qu'une pâle copie du programme original produit par une société bruxelloise, Matchpoint. Car sans prévenir, la RTBF a cédé le droit d'utiliser le nom de l'émission. Un accord conclu à l'insu des créateurs historiques de Striptease, Hugo Charpentier.
Il préfère en sourire, mais au fond, ça le fait bondir. Marco Lamench, créateur de l'émission culte Striptease, n'en revient toujours pas. Son bébé, né il y a plus de 30 ans, a été vendu au plus offrant.
Ça nous a mis un petit peu en colère parce qu'on a travaillé plus de 30 ans pour la radio-télévision belge francophone, la RTBF. Et puis tout d'un coup, on apprend qu'en loose day, 2 ou 3 fonctionnaires de la RTBF ont cru bon de signer avec une boîte de production totalement inconnue au bataillon un contrat leur donnant le nom de Striptease et les autorisant à en réaliser.
La boîte de production s'appelle Matchpoint. Elle est basée à Bruxelles. On ignore le montant de la transaction. Mais ce qui est certain, c'est que ça n'a pas traîné. Plusieurs épisodes sont déjà en boîte, prêts à être diffusés. Marco Lamench en a d'ailleurs déjà visionné quelques-uns.
L'idée de Striptease, c'était de faire du documentaire avec la grammaire de la fiction. Et là, c'est du reportage, on a quelqu'un qui aime bien parler. Alors une fois c'est un vendeur de falafel, une fois c'est un dératiseur, et la troisième fois c'est un taxidermiste. Et c'est chaque fois un bonhomme qui est très content d'être devant la caméra, qui fait l'article, mais il ne se passe rien, il n'y a pas d'enjeu. C'est fait avec des équipes réduites en beaucoup moins de temps. Ça correspond absolument pas à ce qu'était la charte de Striptease et à ce qu'étaient nos intentions.
Mais Marco Lamench et son compère Jean Libon ne veulent pas rester spectateurs de cette mauvaise plaisanterie. Ils réfléchissent désormais aux suites judiciaires à donner à cette affaire.
Hugo Charpentier. Dans le ciel, il est toujours agité, toujours 22 départements en vigilance orange pour les orages dans l'Est. Les températures redeviennent respirables avec 17 à Rennes et Orléans, 21 à Strasbourg, 15 à Aurillac et 25 à Marseille.